Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
De nombreuses manifestations ont animé les rues de Bourg-en-Bresse la semaine dernière. Place de la Comédie, le projet de loi Sécurité Globale était au cœur des inquiétudes. Et devant la préfecture, restaurateurs et métiers de bouche ont fait entendre leur détresse. Nous étions sur place.
Ces responsables d'entreprises le disent, ils sont en grande difficulté et s'inquiètent pour leur avenir. Le point sur la situation avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Le vice-président et le directeur service développement du commerce de la CCI sont nos invités.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Bourg, en bref.
Une phase plus souple du confinement a commencé le 28 novembre.
Réouverture des magasins et même le dimanche pour ceux qui le souhaitent. L'activité physique est aussi possible dans un rayon de 20 km et pour 3 heures maximum. L'attestation de déplacement est toujours obligatoire et ce sont les mesures principales. Prochaine date à retenir, le 15 décembre, si la situation sanitaire le permet. Les cinémas, théâtres et musées devraient rouvrir. Plus d'attestations en journée, mais un couvre-feu sera établi entre 21h et 6h, sauf pour les 24 et 31 décembre.
La préfète de l'Ain a rappelé que la situation sanitaire s'était améliorée ces dernières semaines.
L'incidence était de 1000 cas positifs pour 100 000 habitants il y a quelques semaines. Aujourd'hui, elle est à un peu plus de 200 cas, mais c'est toujours bien au-dessus de la moyenne nationale.
Des cabines de consultation pour limiter les déserts médicaux.
C'est le pari que fait le département. Dans le bassin de Bourg-en-Bresse, un habitant sur 5 n'a pas de médecin traitant. Au niveau départemental, la situation est un peu meilleure avec un habitant sur 7. Des chiffres qui sont en dessous de la moyenne nationale. Pour donner accès aux soins, le département et certaines municipalités vont installer 5 cabines de téléconsultation. Une à Bourg-en-Bresse et une à Saint-Julien-sur-Ressouze notamment. Le concept, on s'assoit dans cette cabine et à l'écran, un médecin en direct fait la consultation. Plusieurs outils sont à disposition, comme un tensiomètre ou un stéthoscope. La première cabine a ouvert le 26 novembre à Montréal-Lacluse.
Vente spéciale à Emmaüs.
C'est ce dimanche 6 décembre, dans leurs locaux à Servas. De 14h à 17h30, vous pourrez faire des achats solidaires et à petit prix.
Les médiathèques de Bourg-en-Bresse ont rouvert leurs portes.
Après un mois de fermeture, les médiathèques de Vaillant, Césaire et Camus vous accueillent de nouveau depuis le week-end dernier. Plus d'informations sur culture.bourg-en-bresse.fr.
Mardi dernier, le 24 novembre, 300 manifestants se sont rassemblés place de la Comédie à Bourg pour le retrait du projet de loi Sécurité Globale.
La manifestation s'est faite à l'appel du collectif antifasciste de l'Ain, suivi par des associations politiques et syndicales. Le projet de loi a été voté ce même jour en première lecture à l'Assemblée et notamment par les 5 députés de l'Ain.
Mais que contient ce projet de loi?
Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce projet de loi a pour ambition de protéger ceux qui nous protègent dans un contexte de défiance contre les forces de l'ordre. Dans les 32 articles, on trouve notamment l'augmentation du pouvoir de la police municipale ou encore un assouplissement des règles pour l'utilisation des armes de service. Mais c'est surtout l'article 24 qui divise. Il prévoit un encadrement des vidéos permettant d'identifier des policiers ou des gendarmes, une atteinte à la liberté d'expression et d'informer selon les opposants. On écoute les inquiétudes de Burgiens face à ce projet de loi.
L'article 24, dont l'objectif est d'empêcher la diffusion d'images de policiers en exercice et donc de violences policières. C'est notamment autour de cet article particulièrement scandaleux que la mobilisation a commencé à s'organiser.
Pourquoi vous êtes là ce soir?
Pour diverses raisons. Déjà, je suis enseignant, donc on nous apprend à apprendre la liberté de penser. Et je pense qu'avec cette loi de PLS, là, comme on appelle, justement, c'est cette liberté de penser, la liberté de manifester qui est en danger. Donc c'est un peu un paradoxe dans ma profession. Puis après, en tant que citoyen, en tant que militant, et puis en tant qu'ardent défenseur des libertés individuelles, je trouve cette loi hyper dangereuse, hyper répressive. Et on est en train de mettre le doigt dans quelque chose de très dangereux qui va amener à une scission de la société.
Pourquoi je suis là ce soir? Tout simplement parce que les choses dérivent de plus en plus, que c'est de plus en plus visible et que le pouvoir se cache même plus. Il y a cette loi, mais il y a surtout la dérive qu'on voit arriver depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, spécifiquement dans cette loi, c'est vrai qu'on sent clairement que l'impunité est laissée aux forces de l'ordre. Après, chacun a son point de vue sur la nécessité ou pas qu'il y a un ordre. Mais là, on va dire que ça ressemble plutôt à des outils pour que ce soit l'ordre social qui soit maintenu et pas la paix. Normalement, ce sont des gardiens de la paix, en théorie.
Le monde que nous propose Macron et tous ses sbires, là, c'est un monde dégueulasse. Voilà, on n'en veut pas pour les enfants. Moi, je veux être libre. Le pouvoir donné à la police, c'est vraiment très dangereux. Et voilà.
Pourquoi je suis là ce soir? Ça me fait relativement peur d'imaginer que le simple fait de filmer l'action de professionnels qui travaillent soit interdite. Pour moi, ça ressemble à ce qui se passerait en Chine. Tiens, on n'a plus le droit de filmer le personnel de police. Et puis après, il n'y aura peut-être plus le droit de sortir dans la rue. Et jusqu'où ça s'arrête, en fait, c'est cette espèce d'ambiance anxiogène.
Tout ce qui se passe me révolte. Je ne comprends pas que dans un pays comme la France, ce genre de loi puisse être déjà à la base proposée et être susceptible d'être adoptée. Pour moi, la France, à la base, c'est des valeurs de respect. Et je me dis que le fait qu'on ait l'idée de proposer ce genre de loi, c'est qu'on est susceptible de se dire que y a des violences qui peuvent être commises complètement impunément et que nous, en tant que personnes lambda, on ne pourra pas apporter de preuves de ce qui se sera produit devant nos yeux. On aura des preuves à l'appui, mais on sera coupable d'avoir commis un crime, d'avoir pris ces images. Et j'ai peur pour le monde de ma fille plus tard, quoi. Vraiment.
Une autre manifestation a eu lieu samedi dernier devant la préfecture cette fois.
Elle a rassemblé 500 personnes à Bourg. Ils étaient des centaines de milliers en France. Le projet de loi sécurité globale sera examiné en janvier au Sénat avant de revenir face à l'Assemblée. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il se saisira le Conseil constitutionnel sur l'article 24 et la Commission européenne a rappelé à l'ordre la France sur les principes de la liberté de la presse.
Et Gérald Darmanin a été auditionné ce lundi 30 novembre.
Le ministre de l'Intérieur doit répondre devant la Commission des lois de l'Assemblée à des questions au sujet des récentes bavures policières. L'Assemblée pourrait aussi mettre l'article 24 au cœur de la discussion.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Devant la préfecture de Bourg-en-Bresse, mardi 24 novembre, 300 personnes étaient rassemblées.
Restaurateurs, éleveurs, producteurs, mais aussi des citoyens venus les soutenir. Les métiers de bouche rêvaient d'une réouverture pour décembre. Le président Emmanuel Macron a décidé qu'elle n'aurait pas lieu avant janvier 2020. Une décision qui met à mal toute une filière.
Mais une telle solidarité, c'est preuve qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui en France. Et je ne peux que vous en féliciter. Donc tout d'abord, bravo, vous pouvez vous applaudir parce que franchement, déjà là, bravo.
Alors David Lacrépinière, président de Picoret dans l'Ain, une association de restaurateurs, de producteurs fermiers et d'artisans de bouche.
Pourquoi vous organisez cet événement?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il va y avoir des annonces du président Macron qui vont être diffusées en direct justement ici en face de la préfecture. Et on a rassemblé l'ensemble de la profession gastronomique et alimentaire, c'est-à-dire du producteur jusqu'au restaurateur. Puisqu'on va sûrement apprendre que les restaurants réouvriront le 15 janvier. Et vu les trésoreries d'aujourd'hui, on a peur justement que beaucoup mettent la clé sous la porte avant le 15 janvier. On voulait être en direct en disant on est là, faites bien attention à ce que vous allez dire.
Il faut continuer, il faut se battre. Ça va être compliqué parce que je pense qu'on ne va pas nous lâcher comme ça. Je pense que le mois de décembre va être encore très dur. On a tous des enfants, on a tous une famille. Il faut qu'on s'en sorte tous ensemble, vraiment. tous ensemble, discothèque, bar, restaurant, étoilé ou non, bistrot de quartier, tout ce que vous voulez. Continuons comme ça, on va se battre, on va y arriver.
Je m'appelle Violaine et je suis chef du restaurant La Cour de Récré à Saint-Martin-du-Mont. Bah, on est là pour ce soir parce que bah, on aimerait bien qu'on nous laisse travailler, quoi. Tout le monde dit qu'on est non essentiel, mais non. S'ils continuent de nous fermer, c'est pas que les restaurants qui vont fermer, c'est aussi toutes les filières qui en découlent, quoi. Les agriculteurs, les éleveurs, c'est pas que nous que ça touche, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de branches qui risquent de se retrouver le cul par terre, si je peux me permettre.
Benoît Mardon, comptoir Yumi, restaurateur à Bourges. Le message fort, c'est que on, tous autant qu'on est, là, vous regardez, on est tous indépendants. Mais indépendants, par, c'est notre ADN, c'est notre essence. On se mobilise jamais ensemble, on se coordonne jamais ensemble. Et là, c'est une des rares, très rares fois où, en fait, on arrive en quelques jours à mobiliser beaucoup de gens qui vont dans le même sens, sans gommer et atténuer nos disparités et nos différences, mais on va dans le même sens. Là, aujourd'hui, ce que vous voyez ici, c'est un immense sentiment d'injustice. Il y a un vrai ras-le-bol, il y a beaucoup de résignation, il y a une immense incompréhension. Parce que justement, on s'est adapté, qu'on a respecté ce qu'on nous demandait, et à la suite de ça, on nous ferme une deuxième fois. Donc on ne comprend pas du tout, en fait. Chacun de nous veut essayer de sauver son commerce. Je dis bien essayer, parce qu'on sait déjà que parmi les gens que vous allez croiser ici, certains ne seront plus là en début d'année.
Je m'appelle Benjamin Martinetti, je suis chef et gérant de l'Auberge Nantaise avec ma femme Hélène, qui est co-gérante. Nous sommes installés en 2011. Tout allait bien jusqu'à maintenant. Nous, on a envie de bosser. Faire moins de monde, pas de problème, mais on veut travailler. C'est tout ce qu'on demande.
Ça représente beaucoup de vos revenus d'ouvrir en fin d'année comme ça?
Le mois de décembre n'est pas forcément le meilleur mois de l'année, mais c'est un des meilleurs, un des trois meilleurs, oui. Et ça permet de voir de passer l'hiver, comme on dit.
Et donc vous, votre situation financière aujourd'hui, elle est critique?
Elle n'est pas critique, elle est très critique. Nous, en ce moment, les seules aides que nous avons, c'est 1500 euros qui sont donnés par les impôts. Mais avec 1500 euros, on ne paye que notre loyer, en fait. On ne paye pas les autres charges et il nous en manque encore 8000. Donc ces 8000, on travaille d'arrache-pied à faire des plats emportés pour essayer de se maintenir à flot. Parce que c'est pas évident. Hein. On a, dans la restauration, il n'y a pas de très grosses trésoreries. Donc ça travaille souvent en flux tendu. Nous, on n'a rien. Personnellement, depuis le mois de mars, on s'est versé deux salaires. Pour deux personnes qui travaillent, mais on a aussi deux enfants, donc c'est compliqué.
Donc en fait, derrière ces revendications, il y a des familles entières en fait, bien qui sûr. Essaient de survivre.
Il y a les familles, on fait travailler le boulanger qui fait lui aussi moins de chiffre d'affaires, le boucher, le poissonnier, tout un système. Notre poissonnier, il nous appelle tous les deux jours pour voir si on n'avait pas un petit besoin, parce qu'on essaie de faire travailler tout le monde, mais malheureusement, on ne travaille pas beaucoup, nous déjà. Donc si on ne travaille pas beaucoup, on ne fait pas travailler beaucoup d'industrie, forcément.
Si ça se confirme que vous pouvez ouvrir que mi-janvier, à partir de mi-janvier, qu'est-ce qui se passe pour votre restaurant?
Il y aura de la casse, je pense. Ouais, il y aura de la casse.
Vous pensez que vous allez vous maintenir?
On ne sait pas. On va voir comment décembre va se passer. Décembre, c'est un mois clé, là. Si en décembre, on ne fait rien, on risque de fermer, ouais. C'est sûr.
Donc là, votre stratégie pour décembre, si vous ne pouvez pas rouvrir en présentiel avec vos clients, c'est quoi?
Là, ce qu'on va faire, on va mettre en place des plats typiquement Noël pour les fêtes, pour les familles, pour des 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Et puis, on va essayer de taper sur ça et vendre du foie gras, du saumon, enfin des produits très festifs pour que les gens aient... Bon, ils n'aient pas à les faire déjà, c'est un bon point, c'est agréable. Nous, ça nous fait travailler aussi, ça nous fait plaisir aussi. Même si on est fermé, on arrive quand même à faire plaisir aux gens. Mais pas assez. Pas assez.
Vincent Guillermin, éleveur de volailles de Bresse à Courmangou. Je suis installé depuis 2016. Alors ma présence aujourd'hui, c'est un soutien total à nos amis restaurateurs et métiers de bouche. Parce qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement avec la restauration et les métiers de bouche. Et la filière Bresse est déjà un petit peu en difficulté. Donc un deuxième confinement, c'est limite la mort de beaucoup d'exploitations à terme. Alors moi aujourd'hui mes pertes, et je peux les chiffrer, on va dire une perte de 80% du chiffre d'affaires. Sachant que je fais essentiellement mon chiffre d'affaires sur les périodes festives, Donc aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir travailler avec des restaurants me pénalise énormément.
Il y a tout ce qui est les particuliers qui achètent vos volailles. Est-ce que ça, ce sera encore possible? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui?
Alors les particuliers peuvent toujours acheter, mais par contre, restent réticents quant à savoir ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau de Noël et puis surtout du jour de l'an. Après les fêtes de Noël, on parle toujours, on dit toujours c'est les repas de famille, mais c'est vrai que c'est aussi les repas de voisins, les repas de collègues de boulot, c'est tout un maillage, c'est tout un ensemble de personnes qui sont quand même consommatrices et qui par l'intermédiaire des confinements aujourd'hui ne peuvent plus consommer.
Et donc concrètement, là vous avez élevé des volailles donc toute l'année, s'il y en a trop, vous allez en faire quoi en fait?
Alors concrètement, moi, mes volailles ont été mises en place au mois de février. Donc au mois de février, on parlait du Covid, mais pas avec les pandémies qu'on connaît maintenant. Donc s'il y en a trop, malheureusement, bon, elles seront abattues, elles seront mises en surgélation. Enfin bon, voilà quoi. Après, la problématique, c'est que moi, un chapon de Bresse, je ne pourrais pas forcément le vendre en chapon de Bresse au mois de janvier. Parce que forcément, j'aurai pas l'appellation, j'aurai pas le... Donc c'est un produit qui sera à terme passé en simple poulet. Donc une grosse perte de revenus par rapport à ce produit-là.
Sandrine,
pourquoi vous êtes là ce soir ?
Pour soutenir la cause des producteurs, des agriculteurs, des cuisiniers, des restaurateurs. Tous ces métiers qui actuellement ne gagnent pas d'argent.
Et donc ça vous manque aussi, vous, d'aller au restaurant, de profiter ?
Oui, énormément, parce que c'est un moment de convivialité. Et puis derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent et qui gagnent qui ont des revenus grâce à ça.
Vous ne comprenez pas trop le choix du gouvernement de fermer ?
Ben, pas vraiment, puisque les cantines scolaires sont ouvertes et toutes ne font pas attention aux gestes barrières.
On a eu un premier confinement, on a tous pris des mesures. Pour certains, pour coûter de l'argent, moi le premier. Et alors d'aujourd'hui, ben, retour à la case départ. Et puis combien de temps, je ne sais pas. Stop. Voilà, stop.
2 minutes, une actu.
La réouverture des restaurants se fera en 2021 et pas avant le 20 janvier. Alors pourquoi la réouverture des bars, restaurants et discothèques est si compliquée, Inès ?
Dans ces lieux de convivialité, on discute, on mange, on boit. Le port du masque est donc impossible. On sait que le virus se transmet en particulier par les gouttelettes émises quand on parle et on respire. Ces lieux sont donc pour l'instant les derniers à pouvoir rouvrir.
Que disent les études scientifiques ?
Une étude américaine publiée début novembre par la revue scientifique Nature est souvent citée. On peut y lire les résultats de chercheurs de l'université de Stanford. Ils ont étudié les contaminations au printemps dernier dans l'agglomération de Chicago, soit sur près de 10 millions d'habitants. Les restaurants sont en tête des lieux où il y a le plus de contamination, suivis par les bars, mais aussi les hôtels et les salles de sport. Il faut cependant remettre en contexte cette étude. Il n'y avait pas de recommandation sur le port du masque aux États-Unis à cette époque, contrairement à la France. Mais il y a assez peu de connaissances scientifiques sur ce sujet, encore trop récent.
Alors, quelle solution pour limiter la propagation dans les restaurants et les bars ?
Cette même étude de l'université de Stanford indique que la limitation des personnes dans les restaurants réduirait largement les contaminations. Si le restaurant accueille seulement à 20% de sa capacité, les risques de contamination sont 7 fois moindres, mais les restaurateurs pourraient difficilement survivre avec une telle restriction. Une autre étude américaine montre l'importance de la ventilation dans les lieux clos. Une bonne ventilation réduit le risque de contamination par aérosol. Cette mesure est d'ailleurs dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé depuis le mois de mai. Il faudrait aérer une pièce 2 fois par jour, au moins 10 minutes. Du côté des chercheurs français, une étude est en cours sur les lieux de contamination. Elle est faite par l'Institut Pasteur.
Merci Inès.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
L'invité de Radio B.
Deux invités avec nous en studio pour parler de la situation des entreprises du département face à la crise sanitaire. Frédéric Borteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Thierry Tollon, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes le directeur service développement du commerce. Les restaurants, bars, salles de sport et discothèques ne rouvriront pas avant la mi-janvier, a annoncé Emmanuel Macron, le président de la République, mardi dernier, le 24 novembre. Dans le reportage, pendant le rassemblement des restaurateurs et producteurs devant la préfecture, l'organisateur l'a dit, vu les trésoreries d'aujourd'hui, on a peur que beaucoup mettent la clé sous la porte avant le 15 janvier. Alors Frédéric Borteau, Thierry Tollon, est-ce une réalité ?
Très probablement, malheureusement. Ils connaissent bien leur entreprise. Ce sont souvent des entreprises qui ont déjà souffert du premier confinement et qui, aujourd'hui, dont les trésoreries sont évidemment mises à mal, avec des perspectives qui restent effectivement très lointaines. Et comme ça a été dit dans le reportage, bien sûr, par les différents intervenants, avec un mois de décembre qui, normalement, est un mois de décembre plutôt intéressant. Je pense notamment aux volaillers, mais aux restaurateurs au sens large.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce sera un mois de décembre décisif cette année ?
Décisif dans le mauvais sens du terme, effectivement. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Même si beaucoup d'aides sont mises en place, même si la mobilisation est très importante à tous les niveaux, oui, ça semble effectivement mettre en péril un certain nombre d'entreprises.
Quels autres secteurs sont en danger dans l'Ain ?
Alors, vous savez, j'allais dire tous les... Parler de danger, c'est peut-être exagéré dans tous les secteurs. Il y a effectivement beaucoup de secteurs qui sont en difficulté, en tout cas. Les mesures mises en œuvre et les accompagnements de la CCI pour solliciter ces mesures sont importants. On peut dire que globalement, le commerce s'en est plutôt bien sorti sur la période entre deux confinements et que ce nouveau confinement qui vient de s'arrêter samedi était vraiment un moment... Ce nouveau confinement arrive vraiment à un mauvais moment, puisque c'était reparti, la consommation repartait, sans dire que ça ait compensé les mois de fermeture du premier semestre. Mais en tout cas, on voyait le bout du tunnel. Et là, on voit le bout du tunnel se refermer avec un début décembre là, qui devra faire la différence. Mais ce qui est perdu est souvent perdu.
Donc on parlait des commerces, des restaurants. Mais est-ce que donc il y a justement d'autres secteurs qui sont impactés par cette crise sanitaire ? Ouais. Thierry Tholon ?
Oui, tout le monde se tient. Je veux dire, si comme vous l'avez cité dans les interviews, le restaurant est fermé, mais du coup peut-être que son fournisseur qui lui n'est pas fermé a perdu du chiffre. Vous avez des secteurs dont on ne parle pas beaucoup, mais si...
Justement, de quels secteurs dont on m'en parle ?
Si vous êtes, par exemple, dans le nettoyage, il y a moins de marché. Vous n'êtes pas obligé de fermer, mais vous n'avez pas de clients. Vous êtes prestataire de transport, par exemple, en messagerie, qui alimente des commerces, s'ils ne sont pas ouverts, vous ne livrez pas. Donc, vous avez moins de travail. Des grossistes aussi. Celui qui a fabriqué éventuellement, l'industriel effectivement donc vous avez toute une perturbation de toute une chaîne économique dont une grande partie est peut-être pas fermée parce qu'il y a beaucoup de gens, moins de gens fermés actuellement ou même en mois de novembre que ce n'était au printemps. Mais vous avez tout un système de réaction en chaîne qui a une influence les uns sur les autres et qui peut générer des pertes peut-être qui peuvent paraître plus minimes qu'une perte totale, mais qui mettent en danger quand même l'entreprise. Un chiffre d'affaires, c'est pas un revenu. Donc, si vous perdez 20% de votre chiffre, peut-être que vous n'allez plus avoir de revenus du tout.
Derek Borto.
Oui, il est important de préciser quand même que en septembre-octobre, l'activité était relativement stable. Ensuite, ce sont plus de 8000 établissements du commerce et des services qui ont été fermés administrativement. Près de 2000 cafés et restaurants qui sont encore fermés jusqu'en janvier. Le calcul est très simple, hein. Ça représente des milliers de personnes concernées. Hein, je le redis bien, 8000 établissements du commerce, 2000 cafés, ça fait 10 000 établissements. Même si tous les commerces n'ont pas énormément de personnel, ça fait vraiment des milliers de personnes impactées par ces pertes de revenus, puisque même si les salariés ont qu'une partie de perte de leurs revenus, il y a une déstabilisation et un mal-être qui est incroyable. N'oublions pas que le commerce, c'est le lien social pour les clients et pour les salariés.
Comment vous avez compris cette distinction entre commerce essentiel et commerce non essentiel ?
Alors franchement, l'a interprété, hein, je pense qu'on interprète tous à sa façon. Je pense qu'on pense tous que les commerces sont essentiels. Ils sont essentiels pour l'économie, ils sont essentiels pour la vie sociale, ils sont essentiels pour la vie des villes et villages. Donc on l'a tous, je pense, mal vécu. Hein. Après, on peut comprendre que des décisions soient induites et forcées par le contexte sanitaire, bien sûr. Et on peut parfois pas aller contre. Là où on peut se poser des questions et là où notre rôle d'élu de chambre de commerce, qui sommes avant tout des chefs d'entreprise, bien bien sûr. Hein. Là où on se pose des questions, c'est sur l'équité. Bon, voilà. Pourquoi certaines grandes surfaces ont ouvertes et d'autres ont été contraintes, d'autres activités ont été contraintes de fermer. Est-ce que c'était justifié par la crise sanitaire? Très probablement. Nous, on n'a pas malheureusement tous les éléments, mais oui, ça a fait souffrir en tout cas beaucoup de gens et c'était vraiment nécessaire d'en passer par là probablement.
Je vais juste ajouter.
Thierry Toulon, oui.
Juste ajouter, comment dire. C'est de toute façon, même sur les commerces ouverts, vous avez un impact.
Bien sûr.
Parce que, comme disait Frédéric, votre salarié, s'il est au chômage technique, il garde une partie de son revenu, mais il en perd quand même un peu. Et puis, même s'il en perd pas beaucoup, de toute façon, globalement, ça crée une inquiétude. Et quand on est inquiet, on met de côté, on thésaurise pour voir venir. Et pendant ce temps-là, donc, vous n'achetez pas. Et donc, effectivement, même le boulanger, il est peut-être ouvert, mais il a perdu des clients. Donc, il a perdu du chiffre. Et ensuite, donc, il va payer. Donc, ça va rejaillir sur peut-être ses salariés. Peut-être qu'il ne pourra pas garder tous ses salariés l'année d'après, etc. etc. Donc, oui, c'est une chaîne économique qui se tient. Et dès que vous bougez un élément, vous influez plus ou moins sur les autres. Il est rare que les secteurs soient tous étanches.
Est-ce que des entreprises ont déjà été obligées de licencier ?
Oui.
Oui, oui. Alors,
Frédéric Borteau.
Évidemment, oui, oui. Certaines se sont séparées de leur personnel. Alors, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, les mesures de chômage partiel ont permis de préserver l'immense majorité des emplois. La grosse difficulté, c'est que vous le savez très bien, toutes les entreprises recourent beaucoup au travail temporaire aujourd'hui. Et ce sont ces salariés-là, ces personnes qui à l'arrivée des fêtes de Noël, viennent grossir les rangs de la grande distribution, de la distribution, du transport, pour assurer les livraisons, etc. Et j'ai vraiment une pensée pour ces gens-là, qui sur lesquels on compte, c'est on va dire saisonniers, entre guillemets, qui pendant cette période importante de novembre, décembre, janvier, viennent grossir les rangs des commerces au sens large, et des entreprises, bien sûr. Et ces gens-là sont évidemment très impactés, encore plus que les salariés qui sont en CDI et qui sont, on va dire, un petit peu protégés grâce à ce statut et la possibilité de recourir au chômage partiel.
Un restaurateur le dit, les aides du gouvernement pour faire face à la crise ne permettent pas de couvrir toutes les charges. La vente à emporter ne suffit pas. Alors que pensez-vous de ces aides étatiques ? Sont-elles suffisantes ?
Je crois que les aides, c'est jamais suffisant, bien entendu. C'est jamais assez, bien entendu. Pour certains, ça sera suffisant. Pour ceux, j'entendais tout à l'heure, qui ont des charges fixes qui sont supérieures à 8 000 euros, effectivement, 1 500 euros, ça ne va pas faire beaucoup et ce n'est pas ce qui permettra de survivre. Il y a d'autres aides, bien sûr, puisqu'il n'y a pas que les aides typiquement de l'État. Il y a des aides parfois locales, départementales, régionales, etc. Mais le cumul de ces aides, effectivement, n'amène pas à un fonctionnement normal, bien entendu.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour mieux les aider ?
Alors déjà, ce qui est complexe, c'est que on a pas mal. Enfin, les plus impactés, à mon avis, seront des entreprises de taille moyenne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact sur les autres, mais les aides de 10 000 euros dans les jours qui viennent, pour le mois de novembre, pour une entreprise qui fait 8 000 euros de chiffre, on va dire, elle va toucher 8 000 euros, ça devrait compenser. Mais alors, ça ne va pas compenser celui qui a ouvert au mois de septembre. Là, j'en ai eu un tout à l'heure au téléphone, donc voilà, lui, il ne va rien toucher du tout. Il n'a pas démarré, donc on ne peut pas comparer un chiffre d'affaires qui n'existe pas. N'empêche qu'il comptait démarrer. Et pendant ce temps-là, ils ne gagnent rien. Et puis, quand vous avez une entreprise avec 5-6 boutiques ou un gros restaurant ou avec plusieurs établissements sous une seule entité juridique, alors on rentre un peu dans des histoires juridiques, mais ils ne touchent que 10 000 euros, alors qu'il en faudrait peut-être 100 000, ça va être très compliqué.
Ce que vous dites, c'est qu'on annonce des aides générales, mais qu'au final, il faudrait plus que ce soit du particulier.
Bah, Oui, à part qu'effectivement, il y a 5 millions d'entreprises en France.
Oui, c'est complexe ensuite, mais...
Et pour que ce soit efficace. C'est complexe. Oui, parce qu'il y a tellement de situations juridiques différentes. Alors, elles correspondent quand même à des masses, hein, globalement. Voilà. Mais vous avez énormément de cas particuliers. C'est vrai que si vous avez 4 entreprises, vous pouvez toucher 4 fois 10 000. Si vous avez 4 établissements regroupés sous une seule entreprise, vous ne touchez qu'une fois 10 000.
Depuis mi-février, vous avez renforcé votre cellule d'accompagnement conjoncture économique. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, en quelques mots ? Thierry Tolon ?
C'est assez simple, en fait. C'est une cellule d'écoute et puis d'information et puis de recherche de solutions, tout simplement. Donc, imaginez, voilà, le personnel mis en ligne pour répondre aux demandes le plus vite possible. Répondre à celles à qui on peut répondre directement, trouver le bon interlocuteur et le bon relais, essayer un maximum de solutions, sachant qu'il y a un certain nombre de cas où effectivement on n'a pas forcément de solutions. Je vous dis, quelqu'un qui a créé son entreprise début octobre, j'en ai eu en mars qui avait créé le 14 mars, c'est sûr que ça a été très 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 difficile. Et puis écouter aussi beaucoup, parce que je pense que les chefs d'entreprise à ces moments-là, j'en ai même eu qui m'appelaient régulièrement, non pas parce que j'avais une solution ou que leur problème avait changé deux jours plus tard, mais parce qu'ils avaient besoin de pouvoir en parler à quelqu'un.
Oui, je peux ajouter, Frédéric Borteau.
Oui, merci. Je peux ajouter que, au-delà de l'aspect, j'allais dire présence, hein, présence physique, téléphonique, plus souvent téléphonique d'ailleurs, on a remis en place une bourse d'entraide à la CCI de l'Ain. On a lancé une campagne nationale. On a accompagné la campagne dans l'Ain nationale concernant les SOS numériques.
Oui, ça, on en reparlera dans quelques minutes.
D'accord. On a remis en place la géolocalisation, effectivement. Et puis la cellule s'est mobilisée avec un travail sur une expertise d'accompagnement, notamment sur toutes les demandes d'aide, bien sûr.
On a aussi beaucoup travaillé avec les collectivités pour justement mettre en place des dispositifs, alors surtout au printemps, puis là c'était peut-être plus rodé, mais au printemps, pour dire qu'est-ce qui est possible de faire à l'échelle locale, parce que les collectivités voulaient faire quelque chose, c'est très bien, qu'ils soient le plus adaptés possible, même si ce n'est pas toujours suffisant. Par exemple, c'est vrai que les gens qui n'ont jamais eu de chiffre d'affaires, ou très très peu parce qu'ils venaient de démarrer, on n'a jamais trouvé de solution réellement satisfaisante. C'est heureusement une minorité, mais il y en a quand même quelques-uns.
Des commerces comme par exemple les librairies, les magasins, ceux dits non essentiels viennent de rouvrir leurs portes. Alors comment les accompagner pour relancer leur activité ? Parce que vous le disiez, rouvrir, c'est pas forcément synonyme du chiffre d'affaires qui remonte d'un coup. Frédéric Borteau.
Non, alors effectivement, je crois qu'il y a des choses qui sont importantes. C'est le rôle des chambres, des collectivités, d'accompagner la reprise. Je pense que la communication collective et individuelle est très importante. Je pense que aussi le rôle des unions commerciales, et nous avons, enfin moi j'ai en charge justement à la Chambre de travailler avec elles et d'être en contact régulier avec ces unions commerciales à travers les services que dirige Thierry Tolon. Il est très important de communiquer, tous médias confondus bien entendu. Ça c'est très important de beaucoup travailler avec ces collectivités. Je suis moi-même oyonnaxien, commerçant oyonnax. La communauté de communes, au budget agglomération, la commune d'Oyonnax, a mis énormément de choses en place en matière de com pour s'adresser aux clients, pour s'adresser aux commerçants recréer cette dynamique de confiance pour retourner dans les commerces. Donc oui, il y a de la communication, il y a la communication collective, je viens de le dire, il y a la communication individuelle. Je pense que la présence sur les réseaux sociaux, sur les marketplaces, etc., il s'est mis beaucoup de choses en place, il y a eu beaucoup d'accompagnement de la part de la Chambre de commerce dans ce sens, contribue à. Voilà. Après, rien ne remplace le présentiel. Donc aujourd'hui, les clients vont pouvoir revenir petit à petit dans les magasins.
Donc la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, vous l'avez dit, participe à la campagne nationale SOS numérique de soutien aux commerçants. Les unions commerciales ont lancé leur site de vente en ligne, comme par exemple centrecommercebourg.fr. Il y a aussi le site lindinois.fr pour acheter en ligne chez les commerçants et producteurs du département. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est un petit peu un pansement sur cette situation ? Thierry Tolon.
Alors, on ne met pas en place un système de marketplace en 4 jours et en se disant ça, tout d'un coup vous avez des millions de gens qui viennent acheter dessus, c'est pas vrai. Et puis la marketplace en elle-même, c'est pas elle qui met les produits en ligne, c'est pas elle qui... Et puis ça peut être très compliqué quand vous avez un magasin avec 8000 références, vous faites quoi? Le temps que vous preniez 8000 photos, voilà. Donc c'est complexe. J'allais dire, à court terme, c'est forcément un côté pansement pour ceux qui n'y étaient pas avant, hein. Certains qui étaient avant, entre guillemets, ça peut être une vraie source de développement, mais pour des gens qui démarrent là-dessus, petite échelle, très très vite, avec un temps très court, on est forcément sur le pansement. Attention, ce pansement, même comme tout pansement, il a un vrai rôle. D'abord, je pense que, on va essayer de trouver des choses positives, hein, c'est un accélérateur de la numérisation de nos commerçants.
C'était indispensable avant la crise.
Ça, alors attention, nous on n'est pas à dire il faut être numérisé. Numérisé, c'est n'importe comment, ça mène pas forcément à quelque chose. Je veux dire, à un
mais
moment,
un
ça
plus.
A un coût. Ça peut être un plus selon vos conditions. Mais
coût,
déjà,
oui.
Au moins se poser la question. Et là, je crois que nous, notre vrai rôle, il est là. Et puis faire en sorte que, non, peut-être pas aujourd'hui, mais que bah, finalement, en avril ou l'année prochaine, à plus long terme, dans une situation un peu plus stabilisée, est-ce que dans mon commerce, ça vaut le coup que je continue de développer ça ou pas? Il existe d'autres solutions. Les réseaux sociaux, ça fonctionne pas mal aussi pour ça. Et c'est relativement simple. Et puis, donc là, ce qui est pour nous important, c'est plutôt de les accompagner là-dessus. Je dis ça un côté enclencheur, mais après, la question, c'est comment ça s'installe ou pas dans la durée. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut absolument le faire, c'est-à-dire le faire correctement. Il ne faut pas mettre en péril son entreprise en faisant quelque chose qui n'est pas adapté. Mais oui, on a toujours fait un travail de fond là-dessus. C'est quelque chose que c'est aussi lui qui pilote ça, et puis qu'il a un peu de la partie quand même, donc il connaît un peu
c'est
la
juste.
Question. Et que voilà, c'est quelque chose qui pour nous s'inscrit dans la durée, qui peut justement permettre de se dire bah, tu vois, plutôt que faire ça tout ça à la va-vite, si on commençait à se poser sérieusement la question, dans la durée, dans ton commerce, est-ce que ça vaut la peine et comment il faut le faire? Pour certains, ça peut être simple, pour d'autres, c'est très complexe.
Alors, on a beaucoup parlé des difficultés à surmonter, mais pour finir sur une note plus positive, est-ce que certains secteurs se développent malgré le contexte?
Alors,
Frédéric Borteau,
je pense qu'il y en a qui sortent, qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. Évidemment, on a vu fleurir sur le département, et ça s'est étendu un petit peu, des plateformes de distribution de produits alimentaires, voilà, du plat à emporter livré, on va résumer comme ça, en commun, je ne citerai pas de nom, mais ça, on voit qu'effectivement, ça démarre, ça sauve un petit peu le marché des vendeurs de pizza, de burgers, de ce type de produits-là. Ces gens-là tirent un petit peu leur épingle du jeu. Autrement, il est très difficile de trouver des motifs de satisfaction aujourd'hui à 3 mois de fermeture administrative pour des commerçants au sens large. Hein. Je pense aussi aux artisans. On en a assez peu parlé, mais les artisans, ils ont été très pénalisés, effectivement, dans leur fonctionnement, vous l'imaginez bien, ne serait-ce que parce que les clients ne voulaient pas les accueillir chez eux. Donc, celui qui a commandé sa cuisine, il n'a pas très envie de voir venir une personne chez lui pour lui poser sa nouvelle cuisine. Donc, il y a eu aussi des adaptations dans ce sens. Je pense que maintenant, on est un petit peu plus rassuré. On va voir arriver, on espère, des vaccins, en tout cas. On sait qu'une partie de la population est un petit peu immunisée. On sent une moindre psychose et donc une nouvelle présence dans les commerces. De là à dire que certains ont tiré leur épingle du jeu, peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup.
J'en connais quelques-uns qui ont pas mal fonctionné. J'allais dire, des fois ils n'osent pas le dire, je dis mais heureusement qu'il y en a des comme vous, parce qu'il va bien falloir qu'on redémarre sur quelque chose. C'est pas forcément des secteurs d'activité. Alors il y a quelques secteurs d'activité qui ont passé un bon été, on va dire. C'est par exemple l'équipement de la maison. Les gens ont beaucoup bricolé pendant le premier confinement, redécoré leur maison, ont passé beaucoup de temps à la maison et peut-être en ont eu marre du vieux lampadaire à voir tous les jours et qu'ils ont voulu le changer. Donc c'est un secteur qui a pas mal tiré son épingle du jeu, globalement. Pendant l'été, est-ce que ça va durer? Je m'assure, je ne vais pas non plus changer mon lustre toutes les semaines. Donc à un moment, c'est un bout. Et puis on a des phénomènes géographiques aussi. surtout dans un département comme là. Bah, par exemple, pendant le premier confinement, les commerces des petites villes, et puis après, ont eu un bon retour de clients, parce que les gens étaient sur place. Quand ils travaillent ailleurs, là, ils étaient sur place, ils sont restés sur place. C'était un peu moins marqué là, parce qu'il y a un peu moins de télétravail. Par contre, quand vous êtes dans une zone où tout le monde, un restaurant dans une zone où tout le monde est en télétravail, et bah, vous pouvez même mettre du plan emporté, il n'y a personne. Donc c'est très variable aussi d'une localisation à une autre au sein même d'une même profession.
Messieurs, merci. Frédéric Borteau, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, et Thierry Tolon, directeur développement commerce.
Merci beaucoup.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.